Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet médical assez pointu, mais essentiel. L'hypertension artérielle, l'HTA, quand elle survient dans le cadre d'une maladie rénale héréditaire bien particulière, la polykystose rénale autosomique dominante ou PKRAD.
Bonjour. Oui, un sujet important.
Pour nous guider, on s'appuie sur une revue scientifique toute récente, parue en 2025, dans Kidney International. C'est une synthèse des connaissances actuelles sur les causes et le traitement de cette hypertension spécifique.
Une très bonne base, en effet.
Alors, pourquoi ce focus ? Parce que l'hypertension dans la PKRAD, ce n'est pas juste un symptôme parmi d'autres. Elle débarque souvent très tôt, bien avant que les reins ne montrent des signes de faiblesse, et elle joue un rôle direct et majeur.
Oui, sur la progression de la maladie.
Exactement. Sur la vitesse à laquelle la maladie progresse et sur les risques pour le cœur et les vaisseaux. Notre mission aujourd'hui, décortiquer ce qui rend cette HTA si particulière, comprendre son impact réel et voir comment on essaye de la maîtriser.
Tout à fait. Et il faut bien comprendre que l'HTA associée à la PKRAD a ses propres mécanismes. Ce n'est pas l'hypertension classique, si on peut dire.
Ah bon ?
Non, il y a un mélange complexe entre d'un côté l'effet direct des kystes qui se développent dans les reins, et de l'autre, des problèmes plus généraux au niveau des vaisseaux sanguins. Saisir cette double origine, c'est vraiment la clé pour une prise en charge efficace.
D'accord. Alors pour commencer, peut-être un petit rappel sur la PKRAD elle-même.
Oui, bonne idée. Donc la PKRAD, c'est la maladie génétique des reins la plus fréquente. Elle touche grosso modo une personne sur 1000 à 2500.
C'est beaucoup, Chloé.
Oui, c'est pas rare. Concrètement, plein de kystes se forment dans les reins et ils grossissent avec le temps, finissant par gêner leur fonctionnement et même par les déformer complètement.
Et ça vient d'où ? C'est génétique que vous disiez ?
C'est ça. Dans la grande majorité des cas, c'est une mutation sur un gène qui s'appelle PKD1.
PKD1.
Ou, moins souvent, un autre gène, PKD2. Il y a aussi quelques autres gènes plus rares qui peuvent être en cause, mais c'est surtout PKD1 et PKD2.
Ok. Et l'hypertension là-dedans, elle arrive quand ? C'est ça qui est frappant, apparemment.
Oui, très tôt. C'est ça le point marquant. Souvent bien avant que la fonction rénale, ce qu'on mesure avec le DFG, le débit de filtration glomérulaire, ne commence à baisser sur les analyses de sang.
Avant même qu'on voit un problème sur la prise de sang ?
Exactement. On estime qu'environ la moitié des jeunes adultes atteints, disons entre 20 et 34 ans, sont déjà hypertendus.
La moitié, c'est énorme à cet âge.
Oui, c'est une fréquence bien plus élevée que dans d'autres maladies rénales chroniques au même stade d'évolution.
Et j'ai lu que le type de gène, PKD1 ou PKD2, ça a changé quelque chose ?
Oui, ça semble jouer. L'HTA serait plus fréquente et arriverait plus tôt, c'est ceux qui ont une mutation sur PKD1.
D'accord.
Surtout si c'est une mutation qui inactive complètement la protéine que le gène produit. Pour PKD2, l'âge moyen du diagnostic d'HTA est un peu plus tardif, autour de 49 ans. Mais bon, au final, 75% des patients finissent quand même par être touchés.
Donc, c'est quasi systématique à terme.
Quasiment, oui. Et pour les gènes encore plus rares, ça a tendance à arriver encore plus tard et c'est un peu moins fréquent.
Et l'hérédité familiale plus large, ça joue aussi, si les parents sont hypertendus.
Oui, ça semble augmenter un peu le risque d'avoir une HTA précoce dans la PKRAD. Des recherches ont été faites sur d'autres variations génétiques, dans des gènes liés à la tension artérielle en général. Mais bon, pour l'instant, leur impact concret pour le suivi d'un patient donné reste assez limité. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette apparition précoce et fréquente de l'HTA.
Et il y a un autre point intéressant, c'est cette histoire d'hypertension masquée. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Ah oui, c'est important ça. C'est quand la tension est normale quand on la mesure au cabinet du médecin.
Classique.
Mais qu'elle est en fait élevée le reste du temps, à la maison, au travail. Une étude a montré que c'était le cas pour presque 17% des patients PKRAD qu'on croyait normotendus.
17%, c'est pas négligeable.
Non, c'est plus que dans la population générale. C'est pour ça que la mesure sur 24 heures, la MAPA, est si utile.
La MAPA, c'est le petit appareil qu'on porte pendant une journée.
C'est ça, la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Elle donne une image beaucoup plus fiable de ce qui se passe vraiment.
Et elle prédit mieux les risques.
Oui, clairement. Elle révèle souvent une tension moyenne plus haute chez ces patients, même quand ils sont sous les seuils officiels de l'hypertension. Et elle montre aussi souvent un autre phénomène.
Lequel ?
Le fait que la tension ne baisse pas ou pas assez pendant la nuit. Normalement, elle devrait chuter. Quand ce n'est pas le cas, on appelle ça un profil non-dipper.
Et c'est grave, ça ?
Ben, c'est généralement considéré comme un signe de risque cardiovasculaire plus élevé. Cela dit, chez les patients en PKRAD, ce profil nocturne n'est pas toujours très stable d'une mesure à l'autre. peut-être à cause de particularités de leur système nerveux autonome ou de la façon dont leur corps gère le sel.
D'accord. Mais le message principal, c'est que cette HTA précoce, qu'elle soit évidente ou masquée, c'est pas bon signe pour les reins.
C'est exactement ça. C'est un vrai signal d'alarme. Plus l'HTA est détectée jeune, plus le risque d'évoluer vers l'insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire la dialyse ou la greffe tôt dans la vie, est élevé.
Et il y a des études qui le montrent clairement.
Oui, une grande étude prospective qui a suivi des patients pendant des années, l'étude CRISP, elle a bien montré que les jeunes patients PKRAD qui étaient hypertendus, même si leur fonction rénale était encore parfaite sur le papier,
ouais.
Eh bien, ils avaient des reins déjà plus gros, qui grossissaient plus vite ensuite, et leur fonction rénale déclinait plus rapidement que chez les patients du même âge qui avaient une tension normale.
Donc, le lien est direct. HTA précoce égale progression plus rapide de la maladie rénale.
C'est ça. C'est pour ça qu'il faut la dépister tôt et la traiter sérieusement.
Alors justement, venons-en aux causes. On a vu que ça arrive tôt, que c'est mauvais signe, mais pourquoi ? Pourquoi cette HTA spécifiquement dans la PKRAD ? L'article que vous avez mentionné décrit deux grands types de mécanismes, c'est ça ?
Oui, on peut simplifier en disant qu'il y a deux coupables principaux qui peuvent d'ailleurs agir ensemble. Le premier, c'est l'effet mécanique direct des kystes sur le rein lui-même.
C'est-à-dire ?
L'idée historique, et qui reste en partie vraie, c'est que ces kystes, en grossissant, ils finissent par écraser le tissu rénal sain autour d'eux et aussi les petits vaisseaux sanguins à l'intérieur du rein.
Ils compriment tout.
Voilà. Et cette compression, ça la crée un manque d'oxygène localisé, une ischémie. Et le rein, quand il manque d'oxygène, il réagit très fort en activant le système principal de régulation de la tension artérielle dans le corps, le fameux système rénine-angiotensine-aldostérone, le SRAA.
Ah oui, le SRAA. On en entend souvent parler pour l'hypertension en général.
Exactement. Et là, il serait particulièrement suractivé. C'est comme si le rein, se sentant agressé par les kystes, appuyer à fond sur l'accélérateur de la tension pour essayer d'améliorer sa propre perfusion. Des études anciennes ont même montré qu'il y avait plus de rénine, la première étape du SRAA, dans les reins polykystiques.
Mais vous disiez tout à l'heure que les mesures dans le sang n'étaient pas toujours élevées. Ça semble contradictoire, non ?
C'est là que c'est un peu plus subtil. En conditions normales, au repos, les taux de rénine ou d'aldostérone dans le sang circulant ne sont pas forcément différents des autres hypertendus.
Mais
les recherches plus récentes pointent de plus en plus vers une activation très locale de ce système, à l'intérieur même du rein malade. On trouve par exemple des niveaux beaucoup, beaucoup plus élevés d'angiotensinogène, le précurseur de l'angiotensine, dans les urines des patients PKRAD hypertendus comparés à d'autres malades rénaux.
Ah d'accord. Donc même si ça ne se voit pas forcément dans la prise de sang générale, ça bouillonne à l'intérieur du rein.
C'est une bonne image, oui. L'activation du SRAA est surtout intrarénale. Et ça explique pourquoi les médicaments qui bloquent ce système, les IOC ou les ARA2, sont si importants dans le traitement. Ils ciblent ce mécanisme clé.
Logique. Et y a-t-il d'autres facteurs liés aux kystes qui pourraient jouer ?
Oui, on suspecte aussi d'autres acteurs. L'endothéline 1, par exemple. C'est une substance produite par les cellules des vaisseaux, qui est un très puissant vasoconstricteur. Elle resserre les vaisseaux.
Et elle est augmentée ?
Ces niveaux sont plus élevés chez les patients PKRAD et c'est corrélé à la taille des reins et à la présence d'hypertension. Il y a aussi des débats sur le rôle du système nerveux sympathique, celui qui gère nos réactions de stress. Il pourrait être suractivé, peut-être en réponse à l'ischémie rénale ou à l'activation du SRAA.
D'accord, donc ça c'était le premier grand mécanisme, les kystes qui perturbent le rein et activent le SRAA localement. Et peut-être d'autres systèmes. Mais vous avez mentionné une deuxième grande cause qui serait plus liée aux vaisseaux eux-mêmes.
Oui, et ça c'est peut-être la partie la plus fascinante et vraiment spécifique à la PKRAD. Il s'agit d'un problème au niveau des vaisseaux sanguins eux-mêmes, un dysfonctionnement vasculaire qui est en partie du moins indépendant de ce qui se passe dans les reins.
Indépendant des kystes ?
En partie, oui. Il faut savoir que les protéines qui sont défectueuses dans la PKRAD, celles qui sont codées par les gènes PKD1 et PKD2, les polycystines 1 et 2, eh bien, on ne les trouve pas seulement dans les reins.
Ah bon ? Où est-ce qu'on les trouve d'autres ?
Et plus précisément, sur de toutes petites antennes, comme des capteurs qu'on appelle les cils primaires.
Des cils sur les cellules des vaisseaux ?
Oui. Ces cils sont des mécanorécepteurs. Ils sentent le frottement du sang qui passe. Normalement, ce frottement, ce qu'on appelle le shear stress, est détecté par ces cils et grâce aux polycystines, PC1 et PC2, ça déclenche une cascade de réactions qui aboutit à la production d'une molécule essentielle pour la relaxation des vaisseaux.
L'oxyde nitrique, le NO.
Exactement, le NO qui est un vasodilatateur puissant. Il permet au vaisseau de s'élargir quand le débit sanguin augmente.
Et donc, dans la PCRAD, comme les polycystines sont défectueuses, ce mécanisme de détection ou de production de NO est cassé.
C'est exactement ça. Plusieurs études l'ont montré très clairement. Chez les patients PCRAD, même s'ils sont jeunes, sans hypertension diagnostiquée et avec une fonction rénale encore parfaite,
oui.
Leurs artères ont du mal à se dilater correctement quand on augmente artificiellement le flux sanguin. C'est ce qu'on appelle la flow-mediated dilatation ou FMD. Elle est réduite. Il y a un défaut de production de NO en réponse à ce stimulus mécanique. C'est comme si les capteurs sur les cils étaient défectueux ou que la transmission du signal ne se faisait pas bien.
Mais ça, c'est incroyable. Ça veut dire que l'hypertension n'est pas juste une conséquence lointaine des kystes rénaux qui grossissent ?
Précisément. Et c'est une découverte vraiment capitale de ces dernières années. La preuve la plus forte vient de modèles animaux.
Ah oui.
En laissant les reins intacts au départ. Eh bien, ces souris développent quand même un dysfonctionnement des vaisseaux et de l'hypertension.
Sans avoir de kystes reins.
Au début, oui. Ça prouve que le problème vasculaire est intrinsèque, lié directement au défaut des polycystines dans les cellules endothéliales. La PCRAD, ce n'est donc pas seulement une maladie d'Hérold, c'est aussi fondamentalement une maladie vasculaire.
D'accord, je comprends mieux. Ça change vraiment la perspective. Et est-ce qu'on a des idées pour réparer ce problème vasculaire spécifique ? Est-ce qu'il y a des pistes de traitement qui ciblent ça ?
Alors, c'est là que la recherche devient très active. Une piste assez étonnante émerge autour de la dopamine.
La dopamine ? Le neurotransmetteur ?
Oui, il se trouve que des récepteurs à la dopamine d'un certain type, DR5, sont aussi présents sur ces fameux cils primaires des cellules endothéliales.
Étonnant.
Et des travaux préliminaires sur cellules et chez l'animal suggèrent que si on stimule ces récepteurs avec de la dopamine ou des médicaments qui miment son effet, comme le phénoldopame, eh bien ça pourrait peut-être court-circuiter le défaut lié aux polycystines et réussir à restaurer la production de NO en réponse au frottement du sang.
Ça, comme une sorte de bypass.
Un peu, oui. Les mécanismes exacts sont encore à l'étude. Ça pourrait jouer sur la longueur des cils, sur des canaux calciques. Mais c'est une piste thérapeutique potentielle très intéressante, car elle cible directement ce dysfonctionnement endothélial spécifique à la PCRAD.
D'accord. Donc, si on résume les causes, on a l'activation du CRA dans le rein, à cause des kystes, et on a ce défaut fondamental des vaisseaux liés aux polycystines défectueuses. Un double problème.
C'est ça. Et les deux contribuent à l'hypertension précoce.
Quelles sont les conséquences concrètes de tout ça pour les patients, au-delà de la progression de la maladie rénale, sur le cœur, les vaisseaux ?
Malheureusement, les conséquences sont importantes, notamment au niveau cardiovasculaire. L'une des plus fréquentes, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche, l'HVG.
C'est l'épaississement du muscle cardiaque.
Exactement. Le ventricule gauche, la principale pompe du cœur, s'épaissit parce qu'il doit lutter en permanence contre une pression artérielle trop élevée. C'est un facteur de risque important.
Et on le voit souvent chez les patients PCRAD.
Oui, très fréquemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parfois la détecter même chez des patients PCRAD qui n'ont pas encore d'hypertension diagnostiquée ou qui sont tout juste hypertendus.
Ah oui, comment ça se fait ?
Ça suggère que le défaut des polycystines, qui sont aussi présentes dans les cellules du cœur, pourrait jouer un rôle direct dans le remodelage cardiaque, indépendamment de la tension artérielle. Ou alors, c'est lié à l'hypertension masquée ou à des pics de tension.
Mais est-ce que c'est réversible si on traite l'hypertension ?
Oui, la bonne nouvelle, c'est que plusieurs études ont montré que cet épaississement peut régresser, au moins partiellement, si on contrôle bien la tension artérielle, notamment avec les médicaments qui bloquent le SRAA comme les ISC.
D'accord. Et pour les vaisseaux eux-mêmes, à part le problème de dilatation dont on a parlé ?
On observe aussi souvent une augmentation de la rigidité des grosses artères. Elles deviennent moins souples, moins élastiques. On mesure ça avec la vitesse de l'onde de pouls, la VOP.
Et c'est un mauvais signe aussi, hein ?
Oui, une rigidité artérielle élevée est un marqueur de vieillissement vasculaire accéléré et un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. Certaines études suggèrent que ça pourrait même commencer assez tôt dans la vie des patients PCRAD, peut-être dès l'enfance ou l'adolescence, même si les résultats sont parfois un peu divergents selon les études.
Donc, cœur et vaisseaux souffrent.
Et puis, il y a ce risque très particulier et assez angoissant dont on entend parler, les anévrismes cérébraux, les AIC.
Oui, ça, c'est un point absolument crucial et spécifique à la PKRAD. Les patients atteints ont un risque beaucoup plus élevé de développer un anévrisme, c'est-à-dire une dilatation anormale sur une artère du cerveau. Le risque est multiplié par 6 à 9 par rapport à la population générale.
C'est énorme. Et le danger, c'est la rupture.
Exactement. Le vrai danger, c'est que ces anévrismes ont une tendance beaucoup plus forte à se rompre chez les patients APKRAD. Le risque de rupture d'un anévrisme existant est multiplié par 7, et une rupture d'anévrisme, c'est un événement potentiellement gravissime, un AVC hémorragique.
Qu'est-ce qui fait qu'il se forme et se rompe plus facilement? C'est lié aux polycystines aussi?
Oui, on pense que le défaut des polycystines dans la paroi des vaisseaux sanguins du cerveau les fragilise. Mais il y a aussi des facteurs de risque sur lesquels on peut agir.
Lesquels ?
Deux facteurs majeurs ressortent très clairement des études. L'hypertension artérielle, bien sûr.
Logique.
Et un tabagisme important, défini souvent comme plus de 20 paquets années. Chacun de ces deux facteurs double environ le risque d'avoir un anévrisme dans ce contexte.
Donc, contrôler la tension et arrêter de fumer, c'est absolument capital pour réduire ce risque spécifique.
C'est fondamental. Et il est aussi très important d'informer les patients de ce risque et des signes qui doivent alerter, comme un mal de tête brutal, très intense, inhabituel, la céphalée en coup de tonnerre.
Et on fait un dépistage systématique.
Une IRM.
C'est recommandé, oui, de faire une angio-IRM cérébrale pour rechercher ces anévrismes. Surtout s'il y a des antécédents familiaux d'anévrisme ou de rupture, ou si le patient a déjà eu un anévrisme lui-même. La stratégie de dépistage est à discuter au cas par cas avec le néphrologue. D'accord. Donc, pour résumer cette partie sur l'impact, l'HTA précoce et le défaut vasculaire de fond créent un cocktail assez dangereux pour la santé cardiovasculaire. Cœur épaissi, artères rigides et surtout ce risque majeur d'anévrisme cérébral.
C'est tout à fait ça. D'où l'importance cruciale de la prise en charge de l'hypertension.
Justement, parlons-en. Comment les médecins gèrent cet HTA complexe chez l'adulte atteint de PKRAD? La première question qui vient, c'est quelle est la cible? Jusqu'où faut-il faire baisser la tension? J'ai l'impression que c'est un débat.
Oui, c'est un débat animé et les recommandations ont évolué. Plusieurs grandes études ont tenté d'y répondre au fil des ans. Il y a eu MDRD, une étude de Schrier, et plus récemment, les essais ALT-PKD, qui sont un peu la référence actuelle.
ALT-PKD, qu'est-ce qu'ils ont montré?
Alors, il y avait deux volets. L'étude A concernait des patients plutôt jeunes, avec une maladie encore débutante et une fonction rénale préservée, DFG 60. On a comparé une cible tensionnelle très basse, visée entre 95-60 et 110-75, MMG-HG, à une cible standard plus classique, entre 120-60 et 130-80.
Et le résultat?
La cible basse était mieux.
Oui, sur certains points. La cible basse a significativement ralenti l'augmentation du volume total des reins, ce qui était le critère principal de l'étude. Le volume rénal est considéré comme un marqueur de la progression de la maladie dans la PKARD.
D'accord, donc moins de croissance des kystes avec la cible basse.
C'est ça. Ça a aussi amélioré l'épaississement du cœur, l'HVG, et réduit un peu la perte de protéines dans les urines, l'albuminurie. Et tout ça sans problème majeur de tolérance. Les gens supportaient plutôt bien cette tension plus basse. Mais est-ce que ça a protégé les reins à long terme? Éviter la dialyse?
C'est là que c'est plus nuancé. Un suivi à plus long terme de ces mêmes patients de l'étude A n'a pas montré de différence significative sur le risque d'arriver en insuffisance rénale terminale ou sur le risque de décès entre les deux groupes.
Ah, donc un effet sur la taille des reins, mais pas sur la fonction rénale à long terme. C'est un peu décevant, non?
Disons que l'effet sur les critères durs n'a pas été démontré dans ce suivi prolongé. C'est pour ça que les recommandations actuelles, celles de CADIGO 2025, sont prudentes.
Qu'est-ce qu'elles disent alors, ces recommandations CADIGO 2025?
Elles essaient de tenir compte de ces résultats. Pour les adultes considérés comme plus jeunes, disons de 18 à 49 ans, et qui ont une fonction rénale encore préservée, stade 1-2 de la maladie rénale chronique,
oui.
Elles proposent de viser cette cible assez basse de 110-75 mmHg, mesurée à domicile si possible, mais seulement si c'est bien toléré par le patient.
Avec la nuance que c'est basé sur les faits sur le volume rénal, pas sur une preuve formelle de bénéfice sur la fonction à long terme.
Exactement. C'est important de le comprendre. Et il faut aussi savoir qu'atteindre et maintenir cette cible très basse, ça peut être difficile en pratique. Ça demande souvent plusieurs médicaments.
Et pour les patients plus âgés, disons 50 ans et plus, ou ceux dont la fonction rénale est déjà plus abîmée?
Pour eux, la recommandation est un peu différente et peut-être plus simple à atteindre. Viser une pression systolique, le premier chiffre, 120 mmHg, mesuré au cabinet médical dans de bonnes conditions standardisées. Là encore, si c'est bien toléré.
Et pourquoi cette cible-là pour eux?
Là, ça s'inspire plus des résultats de la grande étude SPRINT qui avait montré un bénéfice cardiovasculaire majeur à viser moins de 120 mmHg de systolique dans une population générale d'hypertendus à risque, même si SPRINT n'incluait pas spécifiquement de patients PKRAD. L'idée est de privilégier la protection cardiovasculaire chez ces patients plus âgés ou plus fragiles.
D'accord. Donc, une approche un peu différenciée selon l'âge et le stade. Mais dans tous les cas, ça reste des cibles assez ambitieuses.
Oui, ça demande un suivi rapproché et souvent une combinaison de traitements. La plupart des patients auront besoin d'au moins un, voire deux médicaments antihypertenseurs. Si l'HTA résiste à trois médicaments bien conduits, il faut d'ailleurs se poser la question d'une autre cause sous-jacente.
Et les médicaments, c'est une chose, mais il y a aussi tout le reste, j'imagine, les gènes de vie.
Ah, mais c'est fondamental. On le répétera jamais assez, la surveillance de la tension à la maison, l'automesure, c'est essentiel. Le régime pauvre en sel, viser moins de 5 grammes de sel par jour, ce qui correspond à moins de 2 grammes de sodium. C'est très strict.
Moins de 5 grammes de sel, faut vraiment faire attention à tout ce qu'on mange.
Oui, l'activité physique régulière, maintenir un poids normal, arrêter complètement le tabac. On a vu son rôle dans les anévrismes, modérer la consommation d'alcool. Tout ça, c'est la base. Et la restriction en sel, en particulier, pourrait même avoir un bénéfice spécifique sur le rein dans la PKRAD, au-delà de l'effet sur la tension.
D'accord. Et maintenant, les médicaments. Quel est le choix numéro 1, la première ligne de traitement?
Ah, soit un IEC, inhibiteur de l'enzyme de conversion, les médicaments Empril, soit un ARA2, antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2, les sartans.
Pourquoi eux en premier?
Parce que c'est logique par rapport à ce qu'on a dit sur les mécanismes. On a vu que le SRA est hyperactif localement dans le rein polykystique. Donc bloquer ce système, c'est la stratégie la plus ciblée. Les études ALT-PKD ont d'ailleurs utilisé ces médicaments en base.
Et on choisit un IEC ou un ARA2? Ou les deux?
Un seul des deux. Surtout pas les deux ensemble. Les études, y compris ALT-PKD, ont montré que le double blocage, associé un IEC et un ARA2, n'apportait pas de bénéfices supplémentaires sur le rein et au contraire, augmentait significativement les risques d'effets secondaires, notamment l'hyperkaliémie, trop de potassium et l'insuffisance rénale aiguë. Donc, c'est un IEC ou un ARA2 en monothérapie au début. Souvent, ça suffit pour contrôler la tension chez les patients au stade précoce.
D'accord, règle d'or, jamais d'association IEC plus ARA2. Et si ça ne suffit pas pour atteindre la cible, on ajoute quoi en deuxième?
Là, plusieurs options sont possibles et le choix dépend un peu du profil du patient. Les diurétiques sont d'une option logique car les patients PKRAD ont tendance à retenir le sel et l'eau.
Lesquels? Thiazidiques?
Oui, les diurétiques thiazidiques sont souvent utilisés. Les données sur leurs bénéfices rénaux à long terme sont un peu mitigées dans la PKRAD, mais une étude récente n'a pas montré d'impact négatif sur l'évolution de la fonction rénale. Par contre, il y a une précaution importante.
Laquelle?
Si le patient est traité par tolvaptan, c'est ce médicament spécifique qui ralentit la croissance des kystes, mais qui fait beaucoup uriner, on évite généralement d'ajouter un diurétique thiazidique en deuxième intention pour l'instant. Il y a un essai en cours, HydroProtect, pour évaluer cette association. Mais en attendant les résultats, la prudence est de mise. On ne veut pas risquer une déshydratation ou des troubles ioniques.
D'accord. Donc, pas de diurétique en deuxième ligne si le patient a du tolvaptan. Quelle autre option alors?
Les inhibiteurs calciques, ICC, comme l'amlodipine par exemple, sont une très bonne option de deuxième ligne, largement utilisée et sûre. Ils sont efficaces pour baisser la tension.
Il n'y avait pas eu une crainte à un moment qu'il puisse accélérer les kystes?
Si, sur un modèle animal très particulier, mais les études cliniques chez l'homme ont été rassurantes. Les ICC sont considérés comme sûrs et efficaces dans la PKRAD. Ils semblent peut-être un peu moins protecteurs pour le rein, sur la fonction rénale, sur la protéinurie, que les IEC ou RAR2, mais ils sont une excellente alternative ou un ajout, surtout si les diurétiques sont contre-indiqués, comme avec le tolvaptan.
Ok. Et les bêta-bloquants?
Les bêta-bloquants sont aussi une option de deuxième ou troisième ligne. Leur efficacité sur la baisse de tension est comparable aux IEC dans certaines études. Mais globalement, les méta-analyses suggèrent que les IEC ARA2 sont supérieurs pour la protection rénale, notamment sur la réduction de la protéinurie. Donc, on ne les recommande pas en première ligne pour l'HTA de la pécarade, sauf si le patient a une autre raison d'en prendre, une maladie cardiaque par exemple, mais il reste une option valable si besoin.
D'accord. Donc, en résumé, première ligne, IOC ou ARA2. Deuxième ligne, souvent un ISC, surtout si tolvaptan, ou un diurétique si pas de tolvaptan, ou éventuellement un bêta-bloquant. C'est ça l'idée.
C'est l'algorithme général, oui. Il y a aussi les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, ARM, comme la spironolactone. Ils peuvent être intéressants surtout en cas d'HTA résistante, car ils bloquent l'aldostérone, la dernière étape du SRAA. Ils pourraient même avoir des effets bénéfiques au-delà de la tension antifibrose, mais les études sont limitées dans la pécaradie. Et il faut faire très attention au risque d'hypercaliémie, surtout si la fonction rénale est déjà basse, DFG crante. Les nouveaux ARM, finérénone, sont prometteurs mais pas encore testés spécifiquement ici.
Et les inhibiteurs SGLT2, ces nouveaux médicaments du diabète qui protègent le rein et le cœur, ils ont une place?
C'est une excellente question. Ils ont un léger effet sur la pression artérielle et ont montré des bénéfices rénaux majeurs dans l'insuffisance rénale chronique en général. Malheureusement, les patients PKRAD ont été largement exclus des grands essais initiaux. Mais des études spécifiques sont en cours, comme DAPA-PKD, STOP-PKD, pour voir s'ils sont aussi bénéfiques dans cette population. C'est un espoir important.
On attend les résultats alors. Et pour le futur, est-ce qu'il y a d'autres pistes médicamenteuses qui pourraient découler des mécanismes dont on a parlé?
Oui, plusieurs pistes sont explorées. Par exemple, des antagonistes des récepteurs de l'endothéline, comme l'aprocitentan, qui a montré son efficacité dans l'HTA résistante en général. Il faudrait des études spécifiques dans la PKRAD.
Et la dénervation rénale, pour calmer le système sympathique?
Théoriquement, ça pourrait être intéressant, vu qu'on suspecte une hyperactivité sympathique. Mais pour l'instant, les preuves cliniques solides manquent chez ces patients spécifiques. C'est encore expérimental dans ce contexte.
D'autres approches?
Il y a de nouvelles façons de bloquer le SRAA qui sont en développement, comme des inhibiteurs de l'enzyme qui fabrique l'aldostérone, ou même des thérapies par ARN interférent qui empêchent la production d'angiotensinogènes. Très prometteurs sur le papier, mais pas encore évalués dans la PKRAD.
Et le tolvaptan lui-même, ce médicament contre les kystes, il a un effet sur la tension?
Ce n'est pas son but premier, ce n'est pas classé comme un antihypertenseur. Mais oui, les études à long terme suggèrent qu'il contribue à faire baisser un peu la pression artérielle, probablement de manière indirecte, en ralentissant la croissance des kystes, ou peut-être en augmentant l'excrétion de sel.
Et enfin, cette piste de la dopamine pour corriger le problème vasculaire, ça pourrait devenir un traitement indispensable.
C'est une piste de recherche active. Des études préliminaires utilisant soit de la levodopa, un précurseur de la dopamine, soit un agoniste dopaminergique comme la rotigotine, ont montré des signaux encourageants sur l'amélioration de la circulation sanguine dans le rein, sur la baisse de la tension et sur la fonction endothéliale chez des patients PKRAD. C'est vraiment une approche qui cible ce mécanisme vasculaire spécifique. Il faut confirmer ça par de plus grandes études, mais c'est une voie à suivre de près.
Très intéressant. On voit que ça bouge beaucoup. Maintenant, il y a aussi des situations particulières où la gestion de l'hypertension est encore plus délicate. Vous en avez mentionné deux?
Oui, absolument. La première, c'est la grossesse. C'est une période à haut risque pour les femmes atteintes de PKRAD.
Pourquoi?
Elles ont un risque nettement plus élevé de développer une hypertension pendant la grossesse, HTA gravidique, ou une complication grave appelée prééclampsie. C'est une maladie qui associe hypertension et protéines dans les urines et qui peut être dangereuse pour la mère et le bébé.
Que faut-il faire alors?
D'abord, la prévention. On recommande souvent de l'aspirine à faible dose pour réduire le risque de prééclampsie. Ensuite, et c'est capital, il faut absolument arrêter les médicaments IEC et ARA2 avant même de concevoir ou dès que la grossesse est connue, car ils sont très dangereux pour le développement du fœtus, tératogène.
Il faut donc planifier la grossesse et changer de traitement avant.
Idéalement, oui. La surveillance de la tension doit être très rapprochée pendant toute la grossesse, souvent avec des mesures à domicile hebdomadaires. La cible tensionnelle est un peu moins stricte pendant la grossesse, généralement 140-90 mmHg.
et on utilise des médicaments antihypertenseurs spécifiques, considérés comme sûrs pendant la grossesse, comme certains bêta-bloquants, le labétalol, certains inhibiteurs calciques, la nifedipine ou la méthyldopa.
D'accord. Une prise en charge très spécialisée est nécessaire. Et l'autre situation particulière ?
C'est l'enfance. On n'y pense pas toujours, mais l'hypertension est fréquente chez les enfants qui ont une PKRAD. Le problème, c'est qu'elle est souvent silencieuse et donc non diagnostiquée.
Comment la détecter alors ?
Le meilleur outil, là encore, c'est la mesure ambulatoire sur 24 heures, la MAPA. C'est plus fiable que la simple mesure au cabinet. Et il faut y penser, la rechercher activement chez ses enfants.
Et si on trouve une HTA chez un enfant, c'est grave ?
Oui, c'est un marqueur de sévérité. Une HTA chez l'enfant est associée à des reins déjà plus gros et à un risque accru de complications plus tard, comme l'épaississement du cœur, HVG, ou un déclin plus rapide de la fonction rénale à l'âge adulte. Le but du traitement est donc de ralentir cette progression le plus tôt possible.
Et on traite comment ? Avec quels objectifs ?
Les recommandations CADIGO 2025 préconisent de viser une pression artérielle assez basse, sous le 50e percentile pour l'âge, le sexe et la taille de l'enfant, ou pour simplifier chez les adolescents, une cible autour de 110-70 mm de mercure. Et les médicaments de première ligne sont les mêmes que chez l'adulte, les IEC ou les ARA2 qui sont considérés comme sûrs et efficaces chez l'enfant pour cette indication.
Donc, il faut vraiment être vigilant dès l'enfance.
Absolument. Dépistage et prise en charge précoce sont essentiels.
Bon, si on essaye de faire une synthèse de tout ce qu'on a dit, c'est dense. L'hypertension dans la PKRAD, c'est vraiment une complication centrale. Elle arrive tôt, elle est très fréquente.
Oui, et elle a des causes complexes. On a vu ce double mécanisme. D'un côté, les reins qui souffrent à cause des kystes et qui suractivent le système rénine-angiotensine localement.
Et de l'autre, ce problème plus fondamental des vaisseaux sanguins eux-mêmes, ce dysfonctionnement endothélial lié directement au défaut des protéines polycystine.
Exactement. Et cette HTA qui résulte de tout ça a un impact majeur à la fois sur la vitesse à laquelle la maladie rénale progresse et sur le risque cardiovasculaire global des patients, y compris ce risque spécifique d'anévrisme cérébral.
Le prise en charge actuel repose donc sur un contrôle tensionnel qu'on veut le plus strict possible, en adaptant les cibles à l'âge et au stade, avec les bloqueurs du système rénine-angiotensine comme pierre angulaire du traitement médicamenteux.
C'est ça. Mais on voit bien que ce n'est peut-être pas suffisant ou pas optimal pour tout le monde. Il est clair que des approches plus personnalisées seraient nécessaires. Et la recherche s'oriente justement vers de nouvelles stratégies qui essayent de cibler plus spécifiquement les mécanismes qu'on découvre, comme ce dysfonctionnement de
Et c'est ça qui nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question un peu pour l'avenir. On a bien compris que ce problème vasculaire, ce dysfonctionnement endothélial, il est très précoce, il est fondamental et il est en partie indépendant des kystes. Et on commence à entrevoir des pistes, comme ces stimulations dopaminergiques, pour peut-être le corriger spécifiquement. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, dans le futur, une prise en charge de l'hypertension dans la PKRAD qui basculerait un peu ? Qui ne serait plus seulement centré sur le rein et le SRAA, mais qui s'attaquerait aussi, voire peut-être même en priorité, à la santé des vaisseaux eux-mêmes.
C'est une excellente question. Cibler la santé vasculaire elle-même ?
Oui, peut-être même avant que l'hypertension ne soit cliniquement évidente, pour prévenir son apparition ou ses conséquences. Passer d'une stratégie réno-centrée à une stratégie vasculocentrée, ou en tout cas plus globale.
C'est une perspective très intéressante, effectivement. Si on arrive à prouver qu'intervenir tôt sur le dysfonctionnement endothélial a un impact sur les complications à long terme, ça pourrait changer la donne. C'est clairement une question ouverte et un vrai défi pour la recherche dans les années à venir. Comprendre si on peut et si on doit traiter le vaisseau avant même de traiter la tension.
Une piste à suivre de très près. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet sur un sujet complexe.
Merci à vous.
Et merci à vous de nous avoir accompagnés dans cette analyse approfondie. À très bientôt.